Je me permets juste de revenir sur un point que vous avez évoqué, qui est, vous avez très très bien expliqué la rupture au moment d'Adam Smith, et donc l'autonomisation de l'économie, finalement, de la pensée éthique, morale, en tout cas son éloignement, et que ce moment-là est un moment important d'échappement, donc de bascule dans un autre univers qui va ensuite amener tout le développement qu'on connaît. Voilà. Est-ce que vous avez une analyse justement des causes et des raisons, des facteurs qui ont conduit à cette rupture? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment... Parce que vous avez dit, c'est pas Adam Smith lui-même tellement ce qu'il dit qui génère la rupture, c'est que l'époque est prête à
oui,
ça.
Oui, c'est un symbole intéressant qui... parce qu'on voit, voilà. Il a le double... Il regarde les deux côtés, c'est Janus, hein, il a deux visages, il regarde les deux côtés. Ouais. Mais c'est intéressant comme symbole, mais c'est évidemment pas lui qui est la cause opérationnelle de tout ça. Ben là, ça suppose une analyse de toute l'évolution des sociétés occidentales entre le XVIIe et le XIXe siècle. Hein. Donc, mais pour faire un peu simpliste, il y a eu un facteur de réduction du rôle de la religion, qui sont les guerres de religion, qui ont frappé les gens comme une monstruosité et qui ont abouti à une relativisation. La division de l'Europe entre deux camps religieux, alors même si le camp protestant est assez hétérogène, mais ils se sentent quand même solidaires, donc ça fait quand même deux camps en gros, a été un scandale pour les gens de l'époque, qui est quelque chose d'anormal. Puis c'est pas ce qu'enseigne la religion, nous, les évangiles, on ne bouge pas sur les guerres de religion. Donc ça jouait un rôle non négligeable, ce qu'on explique d'ailleurs le développement de la pensée politique avec des gens comme Machiavel, Hobbes, etc., à ce moment-là, qui ne voient plus la politique dans une optique pareille, éthique. Mais là, la rupture est plutôt dans la réflexion politique. Ils le font, comment j'agence au mieux des gens dont les priorités et les intérêts ne sont absolument pas moraux en eux-mêmes. Donc Machiavel, c'est un peu comment je les manipule, et Hobbes, comment je fais en sorte que ça tourne ensemble avec un prince tout-puissant au milieu qui contrôle tout ça, et les gens s'y retrouvent parce que, par rapport à la vie de sauvage qu'ils menaient avant, ils s'y retrouvent. Mais enfin, ils perdent leur liberté au milieu. Enfin, bon. Après, il y avait Locke qui regarde comment je vais agencer ces libertés, mais c'est des libertés plus indéfinies. Donc vous avez... Déjà, dans le domaine politique, à mon avis, avant plutôt le domaine économique,
une autonomisation.
Cette autonomisation. Alors, vous avez un autre domaine d'autonomisation, mais là, plus un peu différent, qui est le domaine scientifique. C'est-à-dire que vous avez eu... alors, on le symbolise par l'affaire Galilée. Mais il est quand même intéressant de voir que Galilée était un Italien. Donc il a pu découvrir tout ça en Italie, dans une Italie catholique. Donc il pouvait parfaitement, ça pouvait se faire dans ce contexte. Bon, je ne sais pas s'il était religieux. Copernic était chanoine.
Il me semble que Galilée aussi.
Je
ne mettrai pas ma tête à côté.
Mais il était ami d'ailleurs d'un tout un ensemble de cardinaux, et notamment de celui qui venait d'être élu pape. Voilà. Donc c'est pour ça que l'autre avait hésité. Il disait, quand même, il a découvert des trucs fabuleux. Donc il n'y a pas un conflit nécessaire. Bon, là, il y en a eu un, essentiellement parce que Galilée s'est aventuré dans le domaine théologique, donc là, hop, on lui a mis une tape totalement disproportionnée sur les faits. Mais il n'y a pas un divorce maintenant, mais il est de fait que le nouveau monde de Copernic, Galilée et Descartes dans une certaine mesure, puis de toute la physique moderne, Torricelli, le nouveau monde italien, est un monde qui est assez différent du monde aristotélicien. Donc ça remet en question, ça remet pas en question nécessairement la philosophie aristotélicienne, mais ça remet en question la physique aristotélicienne. Donc quelque chose qui était reçu comme une autorité, qui est remis en question. On voit après le monde que décrit Newton. Newton est un homme tout à fait croyant, et sincèrement croyant, mais qui décrit un monde où des équations permettent de décrire le mouvement des corps célestes. Donc... progressivement, la physique mathématique arrive à montrer des choses, à donner des résultats convaincants, puisque ça permet de faire des prévisions intéressantes. Et là aussi, ça diminue le domaine du religieux. Et puis en matière économique, et le fait tout simple, c'est que les gens, notamment évidemment là où le grand basculement s'est fait, c'est-à-dire en Angleterre, les gens au cours du XVIIIe siècle, ils ont fait du... Ils y ont pris goût aussi. Il y a aussi ça. Avant même la machine à vapeur, il y a aussi du grand commerce. Comme en Italie au XIIIe siècle, mais l'emprise du religieux était beaucoup plus faible. Déjà. Alors ces gens-là allaient à la messe anglicane, bien sûr, parce que les catholiques étaient persécutés, mais à la messe anglicane, Mais on voit bien que de plus en plus, il y a deux mondes. Et à l'époque de la révolution industrielle, le même pouvait aller à l'office le dimanche et puis avoir des gens payer des sommes parfaitement monstrueuses, des mourants très tôt, en fait, toute la condition ouvrière au XIXe siècle. Et donc, la scission s'est faite aussi dans les esprits.
On pourra le revoir pour reprendre, rebondir à peu près sur le même type de question. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'analyser de la manière suivante? C'est-à-dire que, en fait, les formes de rationalisation et de sécularisation ont fait qu'il y a aussi eu un abandon des formes éthiques. Et donc,
oui, à ce moment-là, voilà, donc, bien sûr, ça a touché simultanément l'éthique et le religieux. Ce qui montre très bien que ce n'est pas.
On voit bien qu'il y a un rapport avec la religion.
Mais c'est une rationalisation. Par restriction, c'est une rationalité beaucoup plus étroite. C'est plus une rationalité éthique, c'est plus une rationalité philosophique, ce n'est plus la théologie, évidemment, non plus. C'est une rationalisation assez pratique, hein, en fait, mais qui avait l'avantage de donner du résultat. Donc ça frappe, évidemment. Et donc ça a assuré un développement. Mais ceci dit, les effets ont été quand même très longs, parce que jusqu'en gros, dans les années 60 du siècle dernier, partout en Europe, la grande majorité de la population était croyante et pratiquante. Donc, un peu moins dans des pays comme la France, où il y avait une révolution politique qui avait fait un peu reculer l'Église. Mais même en France, la majorité était croyante. Donc, et là, vous avez eu un gigantesque basculement dans les années 60, où d'un seul coup, la pratique s'est effondrée. Et un changement majeur, qui très certainement l'effet accumulé de tout ce qui s'est passé avant. Là, c'est plus dans le domaine économique. Mais évidemment, ça joue aussi dans le domaine économique, parce que l'explosion sexuelle d'un côté et de notre côté, le néolibéralisme, je dirais, qu'on peut symboliser par Reagan ou Madame Thatcher, va ouvrir un horizon complètement différent. C'est dans ce domaine-là qu'on pourra dire « great is good ». Ce qui, en 1955, n'était pas décent. Il y a des tas de gens qui, en fait, le pensaient, mais ils ne pouvaient pas le dire, enfin, c'était pas bien. Donc, on voit que le processus est quand même très, très progressif.
Vous pourrez concilier christianisme et économie.
Mais il y a une tension quand même. Hein. Je note, dès le début, il y a une tension.
Oui, il y a une tension, mais finalement, et c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on quittera votre conférence en lâchant de scrupules, on les laissant. Non,
pour ceux qui en avaient, cher Alexis.
Ce que je veux dire, c'est
les scrupules, c'est pas bien. Le souci éthique, c'est en revanche, c'est souhaitable.
C'est un raccourci un peu rapide, effectivement. Et donc, si j'ai bien compris, donc il y a cette bascule que vous évoquez avec ces grands penseurs économiques et cette pensée économique indépendante, enfin, qui devient indépendante. On a aujourd'hui une restructuration du discours, notamment de l'Église, sur l'économie et ce rapport de la religion à l'économie. Est-ce que, parce qu'on les oppose aujourd'hui de façon assez systématique, capitalisme et l'Église catholique, est-ce que cette indépendance de la pensée économique marque aussi la rupture entre l'enseignement de l'Église, harmonieux avec une société qui se développe économiquement, qui consacre une rupture qu'on peut constater aujourd'hui, alors qui pourrait redevenir harmonieuse, mais dont les bases semblent se poser avec cette restructuration du discours que vous évoquiez à partir des années 80 et Jean-Paul II. Est-ce qu'il est légitime d'aujourd'hui d'opposer capitalisme et religion chrétienne?
Vous avez une phrase de Jean-Paul II, justement, qui est assez caractéristique, et qu'il fait dans Centesimus Annus, c'est-à-dire la centième année après Rerum Novarum, donc 1991. Or, c'est les fondements de l'URSS, du système soviétique. Donc il pose la question de savoir, en gros, celle à laquelle M. Fukuyama avait répondu à l'époque, pour caricaturer, parce que c'est un peu plus élaboré que ça, mais la fin de l'histoire, est-ce que c'est la fin de l'histoire, c'est-à-dire le capitalisme est gagné, point à la ligne. Alors lui, il raisonne tout pareil, il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par capitalisme? Il dit, si c'est une économie d'autonomie, de propriété qui permet l'autonomie de l'action des individus par laquelle ils peuvent se réaliser, créer, etc. Donc une économie d'initiative et de propriété, à ce moment-là, c'est en soi légitime. C'est aussi ce que recommande la doctrine sociale. Mais si on entend par là un régime dans lequel les gens peuvent, et en limite presque doivent, en tout cas, peuvent rechercher leurs priorités personnelles, y compris les plus matérielles, et notamment sans souci des autres, de leurs frères, de la communauté, etc., et des règles morales, à ce moment-là, c'est condamnable. Autrement dit, il dit que ça n'a de sens que si c'est enserré dans des soucis moraux et en même temps une réglementation. C'est-à-dire que l'Église a constamment dit, par soi-même, le jeu du marché n'est pas auto-organisateur. Il ne produit pas un résultat optimal. Non seulement parce qu'il y a des crises, etc., mais aussi parce qu'il n'y arrive pas. Donc il dit très clairement, non, et il conclut à la fin, plutôt que de parler de capitalisme, il faudrait parler d'économie de marché ou d'économie libre ou d'économie d'entreprise. Donc il répond très clairement, par ce qui remonte, comme je expliquais tout à l'heure, aux évangiles, en fait, en disant il y a ce souci premier, c'est ce souci éthique, moral, etc., qui est au centre. Si vous ne le mettez pas au centre, vous allez avoir un système qui d'abord fonctionne moins bien que ce qu'il dit, mais qui ensuite donnera de mauvais résultats sur le plan humain. Donc il y a ce leitmotiv qui revient, et là qui revenait à l'époque, au moment où, en face, le système tendait plutôt à se radicaliser, dans l'autre sens. Alors comme en même temps, évidemment, il réaffirmait cette économie de liberté et cette réalisation possible de l'homme dans le travail au sens large, il parle toujours de travail, mais il l'emploie de telle manière que ça inclut clairement l'esprit d'entreprise et l'entrepreneur. Beaucoup de gens aux États-Unis, notamment une école de catholiques très proche du système capitaliste, ont conclu, ben voilà, c'est, il est réconcilié avec. Donc en prenant les passages qu'il fallait, et effectivement, il y en avait beaucoup. Et puis il y en a un certain nombre qui ont dit, ah mais non, pas du tout, ils critiquent très sévèrement en prenant les passages qu'ils savaient dans l'autre sens. Et les deux existaient. Simplement, il faut prendre le paquet ensemble, qui va continuer ensuite par la suite. Vous le voyez, alors par exemple, dans Benoît XVI, Caritas in Veritate, qui est sorti quelques années, un peu d'années avant sa démission, après la crise de 2008, donc, il dit, le marché, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est bon ou mauvais ? Le marché, c'est une forme sociale, c'est une interaction de personnes. Ça va donner des résultats variables selon les priorités du système, des personnes, et selon la manière aussi dont le jeu du marché est organisé. Donc l'outil en lui-même, en tant que rencontre, etc., est bon. Il a une efficacité en général assez peu discutable, pas toujours, mais en général, au moins pour un certain nombre de fonctions, pas pour d'autres, pour lesquelles il ne marche pas bien. Mais c'est une responsabilité des personnes. Là, on retombe les questions d'ISR et autres, évidemment. Mais donc, il réfléchit sur ce concept du marché où il retrouve, en un sens, les idées médiévales sur ce juste prix, mais qui est l'œuvre d'une communauté, mais d'une communauté qui donnera des meilleurs résultats si on cherche la justice en même temps qu'on s'exprime sur le marché, que si on cherche à tirer le maximum d'avantages en se fichant complètement de ce qui arrive aux autres, c'est aux autres à se débrouiller et à résister.
Cette affirmation qui est avant le XIIe siècle, qui était l'argent en par lui-même ne produit rien, comment cette affirmation au jour d'aujourd'hui, vous l'analysez ?
Mais, ça reste vrai en ce sens qu'il produit parce qu'il va être inséré dans un processus de production. Et un processus de production, ça va être des gens actifs. Ça va être un entrepreneur, ça va être des collaborateurs, ça va être des clients et des fournisseurs, et ainsi de suite. Si vous n'insérez pas dans un processus humain, il ne produit rien par lui-même. Le processus humain peut produire, même s'il n'y a pas d'argent. Il produira moins bien, parce que l'argent ne lui permettra pas d'avoir accès à des biens de production qui augmenteraient massivement sa productivité, mais il peut. Il peut. Il y a un tas d'activités où il n'y a pas de capital impliqué. Mais du capital, lui tout seul, il ne fait rien. Hein. Prenez une usine, si personne n'y rentre, l'usine ne fait rien. Alors, on pourrait dire, oui, mais peut-être que technologiquement, demain, on arrivera à avoir des choses qui tournent tout seul. Oui, mais elle tournera toute seule parce qu'on l'a fabriquée pour tourner. Mais il y a bien quelqu'un qui l'a fabriquée à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. Donc, la réinsertion dans un contexte humain est toujours importante. Et puis après, la deuxième réinsertion, c'est du contexte humain de l'entreprise dans le contexte plus large de la société. Donc, c'est ce que le message, par exemple, pour les gens qui sont responsables, l'Église dit la propriété privée, on trouve ça déjà dans Saint Thomas, elle est bonne en elle-même, mais elle est, pour reprendre le vocabulaire de Jean-Paul Leu, elle est grevée d'une hypothèque. C'est-à-dire que les biens sont quand même donnés pour l'usage commun de l'humanité. Donc, effectivement, c'est vous qui êtes responsable et qui décidez de votre propriété. C'est vous, dans le cadre de lois, etc. Mais ben, c'est vous. Oui, mais pas pour faire n'importe quoi. Vous devez avoir ce souci du bien commun dans lequel il s'insère. Et donc, les propriétaires de l'entreprise, donc aujourd'hui les actionnaires, même si en réalité ils achètent, ils vendent, etc., ils se fichent complètement de la responsabilité, ils disent, mais t'es responsable. Autrement dit, tu as ces biens-là pour les faire fructifier, oui, mais pour les faire fructifier dans une communauté limitée qui est l'entreprise, qui elle-même est dans une communauté beaucoup plus large, d'abord de ceux qui lui sont proches, des clients, des fournisseurs, etc., et puis plus largement la communauté humaine. C'est pas, ça veut pas dire qu'on prend en charge tout seul dans son coin les 8 milliards de congénères qu'on a, mais ça veut dire que on sait qu'on doit avoir ce souci de l'insérer dans ce contexte plus large, dans la mesure de ce qu'on peut faire, de ses moyens, de ce qui est possible, ainsi de suite, évidemment. Et donc, ça garde tout à fait son sens. Je pense que le raisonnement conduisant à dire non, l'institution particulière du taux d'intérêt qu'on a, mais c'est un raisonnement contestable, bien qu'il ait été utile, à mon avis, historiquement, mais il est contestable. En revanche, l'intuition morale et puis la réalité collective, elle est vraie, elle reste vraie.
Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur le protestantisme et le lien à l'argent? Parce qu'on a peut-être cette idée un peu fausse ou caricaturale que les protestants ont moins de problèmes dans leur relation à l'argent que les catholiques.
Oui, c'est une idée qui est répandue et que Weber a répandue lui-même avec la thèse qu'il a proposée, qui correspond à une réalité dans certains milieux à certains moments. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, les gens qu'il a observés en Rhénanie à son époque, il y avait probablement une plus grande réticence des catholiques par rapport aux caractéristiques de la société moderne que dans le monde protestant, qui lui-même était beaucoup plus en lien avec l'épicentre de l'innovation, c'est-à-dire l'Angleterre, qui est protestante. Donc, il y a eu une époque où ça pouvait être partiellement vrai. Bon, ceci dit, les gens croient au XIXe siècle que la banque en France a été créée en grande partie par les protestants, c'est pas du tout le cas. La banque en France a été créée pour l'essentiel par des gens qui étaient ou catholiques, ou culturellement d'origine catholique, même s'ils croyaient à rien du tout, mais qui venaient de ce monde-là, tout simplement parce que la majorité de la population est de très loin. Vous aviez une haute banque protestante qui était une banque d'affaires, une banque de gestion de fortune, mais qui était très performante, mais très limitée. Puis vous avez des individus protestants qui ont très bien réussi, comme il y avait des individus juifs, le cas évident des Rothschild. Mais c'est pas le phénomène massif. Le phénomène massif, c'était la banque dépend de la majorité de la population. Et il y a eu une création bancaire massive en France, elle est catholique.
Donc il n'y avait pas un interdit religieux, entre guillemets, non, de l'Église qui disait, ah, surtout l'argent.
Non, il y avait probablement dans l'Église de l'époque une plus grande réticence. Et ça sera approfondi après, le rapport, parce que d'un côté, tu es choqué par un certain nombre de dimensions de la nouvelle société. La condition ouvrière en est un exemple particulièrement clair, notamment dans les, par exemple, tous les catholiques légitimistes qui ont constamment déposé des projets de loi là-dessus. Le comte Albert de Main, par exemple, bien connu, qui était député sous la Troisième République pendant des années, bah, il votait avec l'extrême-gauche, si l'on veut dire, sur la limitation du travail des femmes, du travail de nuit, et ainsi de suite. Parce qu'il ne partageait pas les thèses des autres en face, évidemment. Mais lui, pas tout seul. Hein, parce qu'il considérait que ce n'était pas normal. Par rapport à... considérant que, encore une fois, il faut encadrer de manière éthique, de manière plus forte. Ça ne veut pas dire que le protestant n'a pas de souci éthique, du tout, au contraire. Mais il sera peut-être plus individuel, et plus sur la charité individuelle, sur l'organisation individuelle. Donc... les deux peuvent exister. Alors évidemment, ça dépend des époques. Enfin, si vous prenez les gens qui ont inventé la banque à Florence, puis à Gênes, puis à Anvers, qui étaient catholiques, et puis les gens qui ont suivi à Amsterdam et à Londres, il y a une méchante continuité, hein, en réalité.
Et en revanche, l'émergence du capitalisme en Angleterre, c'est pas forcément si religieux que ça, c'est aussi qu'il y a des innovations.
Mais il y a beaucoup d'innovations. Beaucoup de Weber, c'est là le Weber, en fait. Il fait un raisonnement sur l'idée que le puritain est quelqu'un qui n'est pas sûr de son salut parce qu'il n'y a plus les sacrements catholiques ou les règles vie catholique qui peuvent le faciliter. Donc, étant dans une incertitude, il cherche une mesure et il a l'idée que, d'abord, qu'il lui faut travailler. Et ça, le protestantisme est très clair sur l'idée du ce que Luther appelle le Beruf. C'est le Beruf en allemand, c'est à la fois la vocation et le métier. Ça, c'est très intéressant comme jeu de mots, parce que ça donne bien l'idée. C'est-à-dire, il a étendu le terme de vocation, y compris à ces activités-là, ce qui est très conforme aux évangiles, là, pour le coup. Donc, le protestant met l'accent là-dessus, et l'idée de Weber, c'est que le puritain affolé par son salut bosse comme un cinglé en économisant pour essayer de réussir matériellement. Quand vous regardez historiquement, c'est pas du tout ce que vous voyez. D'abord parce que le gros des gens qui étaient actifs économiquement n'étaient pas nécessairement des puritains, qui étaient plutôt des artisans ou des moyens bourgeois. Et deuxièmement, en réalité, le puritain est convaincu d'appartenir à une élite qui est sauvée. Convaincu. Donc il n'était pas du tout inquiet là-dessus. Mais aucune inquiétude d'aucune sorte. Donc la description de Weber ne correspond pas à la réalité. En revanche, il a raison qu'à l'époque, le centre de l'activité économique et de la dominante économique dans le monde occidental passait vers l'Europe du Nord protestante. Et que l'Europe du Nord protestante a indéniablement tout à fait pris ce flambeau et l'a pleinement développé. Il n'y a pas de doute là-dessus, on le voit bien. Mais ce n'est pas aussi radical et métaphysique qu'il le décrit. C'est des dominantes sociologiques du moment, je dirais, d'une manière ou d'une autre.
Oui, en économie, il y a aussi un autre facteur de production qui est le travail. Vous ne l'avez pas trop évoqué dans votre développement, pourtant fort intéressant. Quel a été le rapport de la religion chrétienne avec le travail?
Ah ben c'est ce que je vous disais, c'est une mutation radicale par rapport à l'Antiquité. Une mutation radicale. Dans l'Antiquité, il y avait l'activité matérielle ou même économique qui n'est pas très noble. D'abord, l'activité matérielle physique était une activité pour les esclaves. Mais même l'activité de négoce, par exemple, les sénateurs à Rome, donc la couche complètement dirigeante, l'élite, comme diraient les Gilets jaunes aujourd'hui, ne pouvaient pas directement faire des affaires. Donc ils utilisaient des affranchis ou des indirects pour investir. Ils le faisaient quand même, bien entendu, mais indirectement, parce que c'était inférieur. Eux, normalement, ils avaient des préoccupations nobles qui étaient soit la philosophie, soit la vie politique. Ça, c'était noble. Soit la guerre, évidemment. Ça, le christianisme le renverse complètement. C'est-à-dire que la traduction la plus claire, c'est ce fameux « ora et labora », mais on le voit déjà dans Saint Paul qui dit « moi, je travaille ». Et il le dit dans ses idées en faisant un trait de gloire. D'ailleurs, le point de départ, c'est des gens qui travaillaient matériellement. C'est une bande de pêcheurs, etc. C'est un autre confrère à moi qui est Saint Matthieu, etc. Des gens comme ça.
Ils ne vivaient pas aux dépens de la communauté.
Ils ne vivaient pas aux dépens de la communauté. Et ce n'est pas par pure nécessité. C'est que c'est bien. Ça participe à l'œuvre de Dieu. Donc le travail était d'emblée dans une autre position. Et le fait, l'artisan ou le paysan des Moyen-Âge, il voyait le moine, il voyait bien que le moine donnait une priorité absolue à l'office divin, c'est-à-dire à la prière. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, comme l'enseigne l'Évangile, comme je le disais. Il voyait en même temps des armées de moines qui travaillaient dans les champs, comme lui, je dirais. Sauf qu'ils étaient beaucoup plus organisés, beaucoup plus structurés, je dirais, au sens moderne du terme, beaucoup plus rationnels dans leur approche technique ou économique. Parce que précisément, la rationalité qu'ils développaient par ailleurs, ils l'appliquaient à ces domaines-là. Ce que le paysan faisait moins spontanément. Il n'était pas formé à ça. Et ça va continuer après. Alors, donc le fameux Beruf de Luther est une manière de dire, la noblesse de la vocation, même non ecclésiastique.
Pour revenir à l'époque actuelle, j'aime bien quand vous dites qu'il y a une affinité entre les entrepreneurs d'aujourd'hui et la foi et la doctrine catholique. Et en fait, dans le fond, j'y crois pas tellement parce que je comprends que dans votre position, vous teniez ce discours-là. Dans la réalité, c'est quand même l'appât de, l'appât du profit qui, du pouvoir qui est le moteur d'un créateur d'entreprise. Si on regarde les créateurs de start-up, c'est pas le cas du tout. Enfin, c'est vraiment c'est l'objectif de multiplier ouais. son investissement de façon énorme. Et de la même manière que vous disiez, si les Portugais sont partis conquérir le monde, c'est parce qu'ils avaient la foi. Je pense que c'est parce qu'ils avaient envie de pouvoir ou de survivre, mais que la foi, il n'était pas pour grand chose. Je vous provoque un petit peu, parce que je suis un petit peu aussi de votre avis, mais je ne suis pas sûre que ce soit si facile de tenir
bien sûr.
Ce discours-là.
Non, mais bien sûr. Mais attendez, si on reprend les Portugais, les affaires étaient totalement centrales. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que l'Europe consommait de façon massive des produits, notamment des épices, pas uniquement, qui venaient d'Orient et notamment des Indes. Et au milieu, il y avait beaucoup d'intermédiaires, notamment tout le monde musulman, si vous voulez, mais simplement des intermédiaires. Donc, à partir du moment où vous aviez accès directement en Inde, vous faisiez des super profits colossaux. Donc, aller trouver la voie pour les Indes était tout à fait intéressant. Donc, je ne dis pas que ces gens-là se disaient « j'ai la foi, donc je pars, et puis secondairement, je fais du fric », pas du tout, pas du tout. Il y a une espèce de mélange de volonté de puissance, de volonté d'argent, mais aussi de quelque chose qui fait que vous vous dépassez vous-même, qui vient dans un... La personne humaine n'est pas simple, hein, tout ça se mélange. Il y a un truc qui est très drôle à lire, qui est l'Ilusiade de Camões, qui est le poème national, l'épopée nationale portugaise, qui se passe au XVIe, écrit au XVIe siècle, mais qui se passe au XVIe siècle, et qui raconte les voyages de Vasco de Gama. Et vous avez un mélange extraordinaire de la réalité de ces choses-là, de la foi chrétienne avec l'apparition de la Vierge, etc., et de l'Antiquité qu'on retrouvait, parce qu'en même temps, les apparitions de Vénus ou autres, enfin bon, c'est assez curieux, et on voit bien cette espèce de mélange. Ils savent qu'ils font un truc grandiose, qu'ils ont fait quelque chose qui était historiquement complètement majeur, et on le voit l'épopée qui est contemporaine, mais bien entendu, il y a beaucoup d'éléments mélangés. Il y a ce ressort qui, à mon avis, est d'origine chrétienne, mais ce ressort se mêle à beaucoup d'autres choses, et c'est ce qui fait que ce ressort continue, dans une certaine mesure, à habiter la culture occidentale, bien après que la foi y joue un rôle central. Il est évident que dans les motivations du type qui fonde une entreprise dans la Silicon Valley, l'élément religieux est à peu près négligeable, hein, c'est totalement évident. Mais je pense qu'il est l'héritier de quelque chose qui joue un rôle dans sa structure mentale. Et
dans aussi des très grands entrepreneurs chinois, par exemple, qui n'ont rien à voir.
Maintenant. Mais autrefois, vous en aviez qui avaient le tempérament, mais le contexte culturel leur disait d'abord, tu es un marchand, donc tu es en bas dans la société. Parce que c'est vraiment. Donc, ce qui est vraiment noble, c'est les lettrés, puis les paysans. Ça, c'était un peu hypocrite, parce que dans la pratique, ça. Mais dans la théorie, c'était le paysan après, puis après, le marchand, c'est-à-dire répugnant. C'était juste avant le bourreau, quoi. Donc, le contexte culturel ne le permettait pas facilement. Mais il y avait quand même des gens qui développaient des choses. Alors, dans la Chine nouvelle, une fois qu'ils ont échappé au cauchemar maoïste, effectivement, on a montré que ces gens-là avaient un talent prodigieux et pouvaient faire des tas de choses. Et d'autant que l'Occident a inoculé cet état d'esprit un peu partout. Et qui peut s'appliquer à d'autres domaines. Et du coup, cette structure mentale héritée du christianisme, après, elle marche toute seule dans d'autres domaines. Sauf que ma conviction, mais que je ne peux pas démontrer, c'est que plus elle restera coupée de son origine, plus à un moment donné, elle s'affaiblira parce qu'elle ne sera pas ressourcée. On le voit déjà dans un certain nombre de traits. On a une société, par exemple, qui ne fait pas d'enfants et qui ne se reproduit pas. Mais c'est pas... On n'est pas une société aujourd'hui qui a une confiance extraordinaire dans l'avenir, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, l'homme de foi continue à avancer, même si tous les calculs lui montrent que ça devrait assez mal se passer, il continue à avancer. Nous, on a une société qui sur ce plan-là, manque un peu de cœur au ventre. Alors, il reste des substituts en dehors des drogues, évidemment, il y a les drogues puissantes. Là, et parmi les drogues puissantes, là, il y a l'argent. Et puis la drogue la plus puissante que toutes, qui est le pouvoir. Mais elle n'est pas à la portée de tout le monde, celle-là. C'est ce qui fait d'ailleurs que l'Évangile en parle beaucoup moins du pouvoir. Parce que, expliquer à ça des gens à la base, ils n'ont pas beaucoup d'idées de ce qui se passe à ce niveau-là. Tandis que l'économie, ils le comprennent tout de suite. Mais... quand vous regardez, par exemple, interroger Bill Gates sur ses motivations, qui ne sont pas de type religieux, mais c'est fondamentalement le fait de vivre une aventure grandiose. une aventure grandiose qui se mesure par du fric. Mais franchement, une fois que vous avez gagné votre premier milliard, arriver à 50, ça n'a aucun intérêt d'aucune sorte, en termes économiques. Aucun intérêt. Mais c'est une aventure. C'est une gigantesque aventure. Où progressivement, le pouvoir prend le relais. Mais ce n'est pas non plus du pouvoir absolu. Prenez Bill Gates, qui n'est certainement pas un modèle de vertu. À un moment donné, il a abandonné les rênes du pouvoir. Il reste richissime, donc il a beaucoup de possibilités. Et c'est fondamentalement vivre une aventure qui est le facteur central. Alors, les startups, c'est autre chose. Parce que là, vous avez une culture de la startup qui s'est établie, notamment en France, hélas, qui n'est pas une culture de quelque chose qui se développe continuellement, ce qui a été quand même, par exemple, ce qui a fait le Mittelstand allemand, c'est que les gens ont constamment réinvesti dans la boîte et l'ont développé. Ils avaient un objectif, c'est que la boîte grossisse. Là, leur objectif, c'est de vendre au bout de quelques années. Et là, on voit que derrière le start-up, il y a le père Goriot, il y a Balzac. C'est-à-dire que c'est ce qui a toujours guetté le capitalisme en permanence, c'est la tentation de la conversion dans la rente. Parce que la rente, à un moment donné, mais toute cette tension, ben on arrête un peu, on se repose, on jouit de ses biens. Et vous avez eu ça, par exemple, les Pays-Bas, c'est très intéressant. Les Pays-Bas, 17e siècle, explosion d'humanisme, incontestablement. Bon, c'était des brutes épaisses. En Indonésie, ils n'ont pas apporté leur religion, ils n'ont pas apporté leur langue, et en revanche, ils ont tiré beaucoup de pognon. Mais c'était très dynamique. Bon, les Pays-Bas, fin 18e, début 19e siècle, la compagnie des Indes orientales a fait faillite. Elle a fait faillite. Parce qu'au bout d'un certain temps, elle faisait de la cavalerie. Elle versait des dividendes avec de l'argent qu'elle levait. C'est-à-dire l'équivalent de M. Madoff. Les Pays-Bas, au début du 19e siècle, protestants, sont bien moins vivants et dynamiques que la Belgique catholique au même moment. Bon, après, ça a changé de nouveau, hein, bien entendu. C'est un peuple extrêmement actif et créatif. Mais il a eu toute une période de rentier. Ouais, bon, les banquiers italiens, c'est un peu différent. Les banquiers italiens, au XVIIe et au XVIIIe siècle, ils vivaient pas mal. Mais ils se convertissaient dans la terre. Parce que la terre, il faut avoir un régisseur et surveiller, mais c'est quand même autrement moins fatigant et moins dangereux que la banque. Hein. Donc vous avez toujours cette possibilité de sortir du jeu et puis de vous convertir sur la rente. Ce qui, à la limite, dans une optique chrétienne telle que je vous l'ai décrite, et notamment médiévale, est plutôt moins bien. Mais oui. Que, autrement dit, le start-upper qui se dit « je veux créer une boîte et je serai milliardaire », limite, c'est presque mieux que le start-upper qui se dit « dans 4 ans, je vends ». Parce que il y a quelque chose de mesquin, il calcule. Et donc, vous retrouvez ce côté, cette forme d'avarice, c'est ce côté étriqué, je veux dire. Or là, le christianisme déjà évangélique, et évidemment qu'on voyait au Moyen-Âge, n'aime pas le côté étriqué, non généreux. Cette générosité, alors évidemment, la générosité du type qui fait du fric, qui n'est pas nécessairement un modèle extraordinaire, mais c'est mieux que celui qui accumule et qui veut dormir dessus.
Que c'était pas idiot de taxer, de continuer à taxer le patrimoine.
Oui, alors là, ça devient compliqué, mais...
Il y a toujours une tension quand même. On a l'impression toujours aussi que les entrepreneurs chrétiens essayent de justifier... Enfin, il y a un peu toujours ces... Bon, je me suis pas mal intéressée à ça, mais c'est vrai que quand on voit des réunions, on a l'impression que... Oui, mais quand même, on fait quelque chose.
Oui, parce que dans l'ambiance, et là, c'est pas intrinsèque, à mon avis, au catholicisme ou au christianisme, mais dans l'ambiance sociologique des catholiques, et notamment de la hiérarchie, par exemple en France, vous avez cet état d'esprit. Mais vous l'avez dans une certaine mesure aux États-Unis aussi, où l'évêque moyen, quand même, se méfie du businessman. Hein, se méfie. Il aime pas, il connaît pas bien, il aime pas. Il n'aime pas beaucoup, mais il n'aime pas beaucoup, pas la façon prédicateur médiévaux qui a l'étonné, etc., ou ce que fait le pape François à sa façon, et qui les secoue, je dirais. Mais il n'aime pas, il se tient à l'écart, quoi. Il aime à l'écart, puis au moins on les voit, mais on se porte. Hein. Donc, et l'autre est mal à l'aise, il dit, mais attendez, mais si, ce que je fais est bien. Et donc, alors qu'il est d'autant plus gêné qu'évidemment, comme on est sur un système où les dominantes ne sont pas des dominantes éthiques, où il se passe des tas de choses qui ne sont pas bien, évidemment, il y a une assimilation qui se fait et qui peut se faire à l'extérieur. Donc, le type d'objet en permanence de se justifier.
Dans le rapport avec l'usure, vous n'avez pas tellement abordé cette question-là. La conception de la foi chrétienne, dans sa généralité, avec l'usure, parce que...
L'usure au sens moderne, tu veux dire.
L'usure au sens ancien. Oui. Au sens ancien, c'est l'intérêt. Mais, comme je vous disais, si vous regardez les évangiles, vous ne trouvez pas de condamnation. Vous en trouvez dans l'Ancien Testament, dans la loi mosaïque, mais dans la Torah, c'est très clair. Comment ?
Ils étaient quand même pourtant historiquement opposés à une certaine époque.
Qui ?
Les chrétiens.
Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai développé tout à l'heure. Vous n'avez pas beaucoup de bases religieuses pour ça. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est clairement un prêt à un individu dans le besoin. Et là, la théorie a toujours été la même. C'est-à-dire, si quelqu'un est dans le besoin, ou tu lui donnes, ou si tu lui prêtes un peu à fond perdu. Il y a une phrase des évangiles qui a beaucoup été utilisée, c'est... Mutuum date nihil in desperante, c'est-à-dire prêter sans rien attendre en retour, mais ça veut dire, on l'a pris comme une condamnation de l'intérêt, mais en fait, ça veut dire, ne te fais pas d'illusion, tu prêtes, mais c'était un prêt d'aide, c'est un prêt de solidarité. En revanche, vous avez la parabole des talents, qui elle dit très clairement, tu vas au banquier, tu fais comme ça, il y a beaucoup d'autres passages dans ce sens-là.
Il y a une conception philosophique aussi qui peut se comprendre comme ça, cet argent-là, il ne t'appartient pas. En fait, réellement, même s'il t'appartient comme ça.
Mais, oui, mais ça, c'est pas ça qui l'empêchait.
De la grâce divine.
Non, oui, mais ça n'empêchait pas que l'argent puisse le faire fructifier, puisqu'on a toujours considéré qu'investir dans une entreprise en fonds propres ou dans une entreprise est parfaitement
licite. Par rapport au don pour le pauvre.
Oui, mais c'est ça. Mais par rapport au pauvre, c'est pas le bon rapport.
C'est un droit du pauvre.
Oui, c'est un droit du pauvre. Donc, c'est pas. Donc. Ces arguments ne valent pas pour le prêt dans l'activité économique. C'est décalé. Et ce qui fait que les justifications qui étaient données pour condamner l'intérêt, comme je disais tout à l'heure, c'était des raisonnements. Comme le raisonnement sur la comparaison avec le pain qui est prêté, etc. Le fait que l'argent est consommé dans le prêt. Donc vous ne pouvez pas facturer à la fois... facturer l'argent et l'usage de l'argent, parce qu'ils ne se séparent pas. L'argent est utilisé et consommé en même temps. Alors qu'une maison, vous pouvez séparer la propriété de la maison et l'usage de la maison. Donc c'était un certain nombre de raisonnements de ce genre-là qui justifiaient, mais c'était des raisonnements. Ce n'était pas des textes appartenant à la révélation. Même si on cherchait à les utiliser, mais pas beaucoup en fait. On a utilisé surtout du raisonnement. Et c'est vraiment développé qu'au XIIe siècle. C'était pas avant, c'était pour les ecclésiastiques que c'était interdit, mais notamment parce que c'était des métiers d'argent, donc on voulait éviter qu'ils s'en mêlent. Mais c'est pas la même chose. Ça s'est développé à ce moment-là. Ça s'est développé aussi parce qu'ils voyaient l'usure au sens ordinaire, actuel, c'est-à-dire qu'évidemment des usuriers qui profitaient de la faiblesse des gens. Alors que la faiblesse des gens, c'est éventuellement le pauvre, mais ça, c'est aussi... le noble qui veut mener une vie fastueuse et qui a passé de revenus, donc il emprunte. Ou le roi qui a des guerres à mener, donc il emprunte.
Est-ce que dans votre carrière, vous avez eu des moments où votre sens de l'éthique a été complètement dépassé par la réalité de votre vie professionnelle ?
Vous avez des situations... Dans la partie proprement active, pas beaucoup. Dans la partie, je veux dire, opérationnelle, économique... En revanche, j'en ai vu toute une série de cas dans les associations professionnelles. Dans les associations professionnelles, vous êtes en contact avec les pouvoirs publics. Et donc, vous êtes plus sur l'aspect règle. Je prends un exemple tout bête. Dans l'activité bancaire, c'est ce qu'on appelle les commissions d'intervention. C'est-à-dire que quand il y a un dépassement non autorisé, vous pouvez évidemment rejeter purement et simplement le chèque ou le club, et à ce moment-là, mais vous pouvez... faire ce qu'on appelle un forçage, c'est-à-dire que vous laissez la personne tirer au-delà de son plafond, mais vous lui collez une commission. Bon, soi qu'il y ait un paiement n'est pas absurde, puisqu'on lui rend un service. Comme disaient certains banquiers, il utilise de l'argent qui n'est pas à lui, puisqu'il a tiré un chèque alors qu'il n'a pas d'argent. Bon.
On le fait avec quelqu'un qui est solvable quand même.
Comment ?
On le fait avec quelqu'un qui est solvable quand même.
Je continue l'histoire, c'est que le problème, c'est que ces commissions d'intervention atteignaient des niveaux individuels élevés et surtout cumulatif, c'est-à-dire que on le justifiait par exemple par la nécessité d'analyser le dossier pour voir si on était, etc. Bon, en réalité, c'est un système informatique hein, dans la 90% des cas. Donc le coût réel de l'examen est faible. Et puis deuxièmement, si vous avez 10 chèques à la suite, vous n'allez pas faire 10 fois la même analyse. Donc vous aviez des gens qui pouvaient être... Alors parfois, c'est des gens riches et complètement insouciants, mais dans l'écrasante majorité des cas, c'était des gens en situation relativement difficile, qui pouvaient avoir en commission d'intervention des 1 000 à 1 500 euros par mois. Donc, moi je dis, expliquez aux gens, enfin, attendez, un, c'est pas bien. Alors là, je vous ai un grand yeux rond, de quoi ils se mêlent. Bon, et puis après, quand je vois que ça marche pas très bien par cet argument-là, je leur dis, attendez, le législateur va intervenir, c'est pas possible, c'est intolérable. C'est totalement disproportionné, c'est du vol, en fait, en termes clairs. Tu me dis, ouais, vous êtes gentil, vous, mais dans les commissions, hein, sur ces gens-là, c'est comme ça qu'on fait notre marche, parce que sinon, on est déficitaire. Comment on fait ? Je lui dis, bah, attendez, le fait que vous ayez une structure de facturation... qui soit rentable pour vous est tout à fait légitime, mais ça ne veut pas dire que ce moyen-là, avec ces résultats-là, lui, soit justifié. Donc, il peut avoir des frais de tenue de compte ou des choses comme ça, qui facturent le service, mais pas à ces niveaux-là. Donc, à la fin, évidemment, je lui disais, bon, les députés vont s'en emparer, ils vont vous coller un machin, etc. Et la réponse, généralement, a été, eh bien, quand ils le feront, on verra, mais d'ici là, on continue à percevoir. Donc, bon, donc... entre nous, moi, comme c'était moi qui faisais l'interface avec le ministère, bon, on va faire en sorte de concocter un truc qui a mis des plafonds. Quoi. Malheureusement, les plafonds étaient un peu hauts. Mais c'était quand même des plafonds. Autrement dit, comparé aux 1 000 euros, ça les a réduits à des sommes beaucoup plus faibles. Mais voilà un cas où c'est clair. La profession, en plus, est mieux placée. Parce que si vous parlez à un banquier individuel, il peut dire, il peut vous répondre, « Attendez, moi, je peux pas... Je suis en concurrence avec les autres. Si les autres font ça et gagnent bien, moi je peux pas. » Et la profession, c'est tout à fait différent. La profession, elle peut dire, poser des normes professionnelles. Alors, moi, je me suis battu pour qu'il y ait un statut législatif des normes professionnelles, ce qui fait qu'il est possible pour une profession de faire une norme qui a une certaine valeur juridique et qui contraint et qui, du coup, résout le problème par rapport à l'accusation d'entente anticoncurrentielle et ainsi de suite, puisque c'est un acte public par lequel on dit. Voilà, par exemple, les commissions d'intervention sont plafonnées à, mettons, 30 euros. Bon, et ça, ça n'a pas été possible. Il a fallu passer par un décret. Donc là, vous avez une limite sur un sujet qui est relativement simple, qu'à mon avis, la plupart des gens peuvent comprendre très bien, donc a fortiori des professionnels, mais bon, ils ne le font pas. Bon, j'ai eu un autre cas, par exemple, vous savez, sur les marchés financiers, le trading haute fréquence, c'est-à-dire les opérations qui se font tous les 10 millièmes de seconde. Alors j'explique aux gens, attendez, si je parle à un journaliste ou un politique, un parlementaire, comment voulez-vous que je vous explique, que j'explique qu'il y a tous les 10 millièmes de seconde quelque chose de nouveau dans le monde ? C'est pas du tout le cas. Il y en a au maximum toutes les secondes qu'on peut percevoir. Mais en réalité, dans toute la génération, tous les millièmes, centièmes, 10 millièmes de seconde, c'est des types qui jouent entre eux. Donc ça donne l'image d'un marché complètement hors sol, totalement hors des réalités, d'une part, et où, d'autre part, l'individu, l'investisseur moyen, et notamment l'investisseur, même l'investisseur professionnel, part perdant, puisque lui, il intervient toutes les secondes, et pendant ce temps-là, il y a eu 1 000 générations de transactions dans tous les sens qui ont été faites sur des systèmes informatiques. Tu me dis, ça donne la liquidité. D'abord, il faudrait prouver que ça donne la liquidité, c'est pas évident. Mais deuxièmement, vous voyez bien que l'avantage éventuel, que moi je conteste, mais enfin, supposons, de liquidité, n'est pas comparable avec l'image désastreuse que ça donne de quelque chose qui a perdu sa fonction naturelle et réelle. Et alors là, ça c'était la solution des marchés financiers, je vois le conseil se diviser en deux. La grande majorité, complètement d'accord, hein, et deux pas d'accord du tout, mais c'était les deux grandes banques qui faisaient du trading haute fréquence. Bon, et à ce moment-là, vous ne pouvez pas le forcer, celui-là. Alors je leur dis, attendez, je me permettrai quand même de dire publiquement ce que j'en pense. Bon, voilà. Mais il y a un petit risque après, parce que je n'apprécie pas nécessairement en disant, attendez, de quoi vous mêlez, là on ne vous paye pas pour aller nous donner des leçons. Donc, c'est pas. Et là, il y a un autre dilemme qu'on voit bien, c'est que sur ces dossiers-là, il y a un décalage de compétences qui est considérable. Et donc, prenez par exemple les commissions d'intervention, le premier texte qui était voté par les députés était nul. C'était tellement mauvais qu'il ne mordait pas, ça ne faisait rien. Parce qu'il ne connaissait pas assez bien pour faire un bon texte. Il faut connaître. On retombe sur les médiévaux qui étudiaient la question. Il faut étudier la question pour pouvoir faire un texte qui soit efficace. Bon, et là, c'est pareil pour les opérations, le training en fréquence. Et puis, vous explique, attendez, mais c'est comme ça que ça se passe, il y a ceci, il y a cela. Les gens du dehors, alors vous allez avoir des Oxfam et autres qui vont faire des théories, mais dont la moitié ne tient pas debout, parce qu'ils peuvent avoir des gens relativement compétents, mais pas assez compétents. Donc, par rapport à des vrais professionnels, il est assez facile d'aller expliquer au ministère, attendez, regardez, il dit n'importe quoi.
Alexis, c'est pas évident. Une dernière question.
J'ai une question. Vous avez commencé en soulignant la singularité de l'harmonie entre le Nouveau Testament et l'économie. Harmonie relative, certes.
Oui. En tension, en même temps.
Voilà. Relative. Vous avez terminé en disant que catholicisme et entreprise étaient un cocktail a priori idéal. Est-ce que ça veut dire.
Non, je ne sais pas seulement l'exclusion d'autres, mais. Je dirais que ça peut avoir une relation très féconde,
oui.
Mais ça ne l'a pas nécessairement. Dans des contextes sociologiques non favorables, ça peut ne pas produire, ça peut ne rien donner. Bon, on prend l'Espagne, justement, on en avait parlé. L'Espagne était un pays qui était moins avancé économiquement, rien à voir avec l'Italie, hein, c'est un décalage complet, et qui a vu tomber cette manne démentielle de l'or et de l'argent d'Amérique. Qui a fichu en l'air son économie. Parce que c'est comme le pétrole. Avoir du pétrole, c'est une catastrophe. Il faut toujours avoir du pétrole. Parce que ça corrompt tout. Au lieu de travailler pour et de créer, ça tombe tout seul. Ça tombe tout seul. Alors quand le pays est grand et le pétrole petit, comme en Angleterre, c'est pas trop gênant. Mais quand c'est la ressource essentielle, c'est terrifiant. Ben eux, ils ont eu ça à très haute dose.
Il n'y a plus d'entreprise.
Ah ben, déjà, ils étaient moins développés en termes d'entreprise. Parce qu'ils sortaient de la Reconquista, etc. Donc, c'est quand même paysan et guerrier, hein, la Castille. Mais, en plus, il y a eu ces torrents d'argent qui sont venus. Ce qui fait qu'ils vivaient de plus en plus de produits importés payés avec l'or et l'argent.
Et est-ce que, si moi, je ne suis pas entrepreneur, si je veux monter une entreprise, il vaut mieux que j'embrasse la religion catholique
Non, c'est le choix d'une religion, à mon avis, ce qui se fait par des motifs économiques... Je pense que le Tout-Puissant trouvera ça un peu suspect. Alors, les voix du Seigneur sont impérétables. Alors, c'est peut-être un moyen de vous attraper, moi j'en sais rien. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra évoluer après par rapport à ça.
J'ai une autre question. J'ai pas compris si vous présidiez l'association Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens.
Non, l'entrepreneur et dirigeant chrétien, c'est il y a un patron qui change tous les 4 ans et qui est un patron d'entreprise en activité. Donc, moi, je ne le suis pas. Donc, moi, je préside la commission économie et finance éthique, qui est une commission, une des commissions, mais qui s'occupe de la dimension économique, de l'éthique, de l'économie et de la finance, dans les EDC.
Et alors, est-ce que le même type d'association existe dans d'autres religions? Existe-t-il des associations d'entrepreneurs et dirigeants musulmans, bouddhistes?
C'est-à-dire que dans le monde chrétien, oui, bien sûr, il y en a. D'abord, les EDC sont œcuméniques, hein, mais vous en avez ailleurs. Donc, ça, je veux dire, la différence entre catholiques et protestants est importante par d'autres côtés, mais enfin, un tronc commun majeur. Hein, donc, bon. Dans le monde musulman, vous avez deux choses. D'abord, la situation économique n'est pas du tout la même. Hein. Le monde musulman est beaucoup moins riche ou développé en dehors des pays qui ont une rente pétrolière, mais il est moins. Donc, vous ne pouvez pas comparer facilement les situations. Deuxièmement, l'approche.
Il y a plus de textes, par contre.
Comment ?
Il y a plus de textes qui abordent la
oui, alors, justement, la différence, c'est que. La différence fondamentale, c'est que. C'est pas qu'il y a plus de règles, mais elles sont juridiques. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une loi. Donc. Donc il y a une approche juridique. Alors l'énorme avantage d'une approche juridique, c'est que ça vous donne une réponse normalement assez claire et moyennant consultation d'experts. Ce qui fait que vous avez une finance islamique qui est tout à fait considérable. Vous avez énormément d'argent, notamment lié au pétrole, mais pas uniquement, loin de là. Et deuxièmement, le fait que, à la fois, c'est plus difficile d'échapper à la règle, et en même temps, c'est plus facile d'y rentrer dedans, parce que, moyennant expertise, vous rentrez dedans. Donc, vous êtes... Alors, des entrepreneurs, il y en a, des associations d'entrepreneurs dans des pays musulmans. Nous, on avait eu des contacts, c'est pas moi qui en avais, mais avec des gens au Maroc, par exemple, ou en Tunisie, ou alors, en Turquie, vous avez, parce que c'est le fonds de commerce de M. Erdogan, qui n'a pas que des vertus par ailleurs. Enfin, il a présidé à 10 ans d'expansion tout à fait remarquable de la Turquie. Alors maintenant, ça se gâte un peu, mais pendant tout un temps, il y a présidé. Donc, je pense que l'islam n'a pas ces structures de pensée qui permettaient cette éclosion-là dans le cadre chrétien. Autrement dit, je ne pense pas que le décollage aurait pu se faire ailleurs que dans le monde chrétien, mon conviction personnelle. En revanche, une fois qu'on voit ce qu'est le décollage économique, etc., ça peut se faire ailleurs. Et dans le monde musulman, il n'y a pas de contre-indication intrinsèque du tout. Mahomet était un commerçant. Le commerce a toujours été très bien vu en islam. Donc il n'y a pas d'impossibilité. Il y a une tournure d'esprit assez différente, et surtout ce côté très juridique. Mais c'est pareil dans les autres civilisations. Vous avez eu du développement économique, mais qui décollait jamais, à cause du fait qu'il n'y avait pas ce cadre mental qui a permis de franchir le stade. Mais maintenant, une fois qu'il a été franchi, la leçon vaut pour tout le monde.
Vous répondez effectivement à la première question mal formulée.
Merci beaucoup, Pierre Delozan. Merci infiniment.